salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu aujourd'hui?
Salut Nico, ça va? Et toi?
Bien, on est dimanche, on enregistre un dimanche. C'est assez rare d'ailleurs hein, pour le signaler. Et chez moi, il fait super beau, donc je suis très content de cette période d'enregistrement. Le programme va être très chargé aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, on va fêter des anniversaires, un ou deux, hein, tant qu'à faire, on va souffler des bougies, on va évidemment parler de l'évolution de Chrome, de Chrome OS, de Chromebook, et puis différentes applications que tu as trouvées et que tu avais envie de mettre en lumière, Thomas, et ce qui était assez étonnant, j'étais surpris, mais pourquoi pas. Et puis, on va vous parler également un peu de hardware. Alors cette fois, ce sera pas forcément des Chromebooks, même s'il y aurait à en parler, mais ça va être des petits appareils qu'on va pouvoir intégrer à nos Chromebooks.
Alors, clé USB. Non. On verra.
Peut-être un nouveau format de clé USB, exact, Thomas. T'as bien suivi le prompteur, toi, je vois. Donc, on va y aller. Hein. Je pense que j'ai tout dit dans le résumé. T'as pas grand-chose de plus à rajouter pour l'instant, je pense. Donc, on attaque dans le vif du sujet. On parle d'anniversaire, Thomas.
Allez, on est parti.
Tu voulais en souhaiter un, je crois.
Ouais, joyeux anniversaire à Chrome, puisque Chrome fête ses 10 ans. Bon anniversaire, Chrome. 10 ans déjà, ouais.
Donc, moi, je voyais ça plus vieux, tu vois.
Bah ouais c'est vrai mais ça marche pas. Ouais, 10 ans, c'est vrai que ça avait un peu surpris tout le monde hein, je sais pas si tu te rappelles Nico à l'époque quand Chrome OS avait été lancé. Les gens se disaient mais pourquoi Google s'embête à créer son propre navigateur, est-ce que ça a vraiment du sens, on a déjà Internet Explorer, enfin je veux dire à quoi ça va servir. Et puis bon, on voit que 10 ans plus tard, ils ont fait plus que révolutionner le monde des navigateurs, puisqu'aujourd'hui même Microsoft utilise Chromium comme moteur pour son nouveau navigateur, pour Edge. Donc voilà, donc 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans.
Ouais, si on fait une petite rétrospective, est-ce que t'as des choses qui t'ont marqué dans l'usage de Chrome depuis ce temps?
Le T-Rex quand t'es offline. je spoil un peu la news d'après. Non, je sais pas exactement s'il y a un truc qui me vient en tête en particulier. Je sais que bon, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est qu'à une époque Chrome était censé être le navigateur le plus rapide. Il s'est là aussi passé un petit il s'est passé 2-3 petits trucs depuis. Et on va dire que Chrome est plus forcément synonyme de vitesse et de rapidité et de fluidité. On va dire que c'est pas en termes de consommation mémoire aussi. On va dire qu'ils sont un peu partis peut-être dans la mauvaise direction un petit peu. Mais ça reste malgré tout le navigateur ou un des navigateurs les plus le navigateur le plus courant on va dire aujourd'hui. Donc voilà.
Moi ce qui m'avait marqué à l'époque, alors je sais peut-être tout le monde va me dire ouais ça existait déjà, c'était l'usage des extensions sur le navigateur en fait. Où tu pouvais rajouter des fonctionnalités qui n'existaient pas en natif dans le produit et tu pouvais mettre un peu tout ce que tu voulais. Il y avait le Chrome Web Store qui était sorti quasiment en même temps, je crois. Et ça permettait vraiment de rajouter ces extensions. Et aujourd'hui, moi, je les utilise toujours, ces extensions. Alors, c'est peut-être plus les mêmes qu'il y a 10 ans, hein, j'avoue. Mmh. Par contre, j'utilise beaucoup d'extensions. J'ai aussi adoré les onglets, la façon de traiter les onglets. C'est aussi ça qui a surchargé Chrome, hein, je pense. Le fait d'avoir tous ces onglets. Alors, on va me dire, ouais, mais Opera, ça existait déjà, d'ailleurs. Ouais, je crois. Mmh. Faisait déjà ça. Mais moi, je trouvais ça plutôt intéressant et assez fonctionnel.
Alors attends, c'est Chrome qui a introduit les onglets? Je me rappelle plus.
Je sais pas.
Je me rappelle de l'époque. Ouais, je me rappelle de l'époque avant les onglets, mais je me rappelais plus que. Je pensais que Firefox avait des onglets aussi à l'époque, mais peut-être pas en fait.
Ah, mais moi, j'étais Windows avant. Hein. J'étais Windows, donc j'utilisais Internet Explorer où c'était plusieurs fenêtres que tu ouvrais.
Ouais, d'accord. Bah ouais. Donc, non,
c'était un peu compliqué pour switcher d'une à l'autre, c'était complexe et du coup Chrome a pour moi révolutionné, mais effectivement hein, peut-être que Firefox l'avait ouvert avant, ouais. C'était pas mais moi c'est ce qui m'avait marqué à ce moment-là.
D'accord. Donc,
bon anniversaire Chrome et encore plein de bonnes choses. De toute façon le terme Chrome va pas disparaître puisque les Chromebooks et Chrome OS est là et est parti pour durer très longtemps. Ouais. Un autre anniversaire que tu m'as grillé hein, je voulais fêter l'anniversaire de T-Rex. Alors vous le connaissez tous. Tu le connais, tu l'utilises de temps en temps toi?
Je l'utilise de temps en temps. Oui, ça m'arrive de temps en temps de ne pas avoir internet et donc d'appuyer sur la barre espace pour faire sauter le dinosaure au-dessus des cactus.
C'est ça. Et figure-toi que tu n'es pas le seul à faire ça à travers le monde. Il faut savoir que le petit jeu de dinosaures qui saute au-dessus des cactus et qui passe sous les vélociraptors, je pense, je sais pas ce que c'est comme animal, ben en fait, il y a 270 millions de parties par mois qui sont faites à ce jeu-là. Pour te dire que dans le monde, il n'y a pas une très 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 bonne connexion internet, hein, visiblement.
Ouais,
donc ça fait 5 ans que ça existe.
Pour ceux qui n'ont pas, ouais, pour ceux qui n'ont pas compris de quoi on parlait, parce que c'est pas, un, c'est un peu, on parle un peu en langage codé, mais on parle du petit jeu en fait qui s'affiche, ou du petit dinosaure qui s'affiche quand vous n'avez pas de connexion internet sous Chrome. Et donc si vous en êtes jamais rendu compte, c'est pas une image en fait, c'est vraiment un espèce de mini jeu d'arcade qui est embarqué dans Chrome, et donc il suffit d'appuyer sur la barre espace pour faire sauter le dinosaure, et le faire avancer, et le faire sauter au-dessus des cactus. Et donc voilà, donc c'est si vous étiez pas encore rendu compte que c'était un jeu, sachez que au moins quand vous avez pas internet, vous pouvez passer le temps à faire sauter le dinosaure. Et ça marche aussi sur Chrome, sur mobile.
Et vous pouvez couper la connexion internet pour l'essayer, hein. Alors, pas pendant que vous êtes coupé le podcast et puis que vous êtes en train de télécharger, mais couper la connexion internet, lancer une navigation web et puis vous allez le trouver, le petit dinosaure. Et pour la petite histoire, tu avais interviewé d'ailleurs un de ses créateurs il y a déjà un petit moment, hein, sur le CKB Show, je crois.
Ouais.
Ce créateur, c'est, enfin, qui fait partie du groupe, c'est Sébastien Gabriel qui avait participé au développement de ce jeu. Donc vous pourrez écouter notre podcast il y a au moins 2 ans maintenant, où on discutait avec lui sur pas mal de choses et l'évolution des Chromebooks et de Chrome. Donc voilà, les anniversaires, on les a finis, c'est bien là. Avec 2 anniversaires, c'est pas le tien, non ?
Non, moi, c'est moi. Octobre. Ah d'accord, donc, là, bon, bientôt alors. On en reparlera quand ça arrivera.
Alors, tu auras les billes.
On parle des nouvelles petites fonctionnalités qui ont vu le jour sous Chrome.
Alors tiens, pour faire une transition, tout à l'heure tu parlais de Microsoft qui se mettait à Chromium, on peut peut-être en parler tout de suite, comme ça sera fait, on se débarrasse de Microsoft. Donc il y a Microsoft qui améliore Chrome. Alors là t'as mis ça, moi j'ai été subjugué. Alors déjà qu'ils se mettent à Chrome, enfin à Chromium, j'étais déjà... Ils n'avaient pas un navigateur web qui s'appelait Edge, un truc comme ça. Et donc, ils abandonnaient ça pour revenir sur Chromium. Et maintenant, tu me dis qu'ils améliorent Chrome carrément. Mais que se passe-t-il ?
Ouais, donc c'est ça. Donc pour alors, améliorer, c'est un bien grand mot, en fait. Mais en gros, c'est que... Donc, le contexte, c'est ça. C'est que donc Internet Explorer est plus ou moins mort. Hein. Si vous utilisez Internet Explorer, il est temps de changer. Et donc, du coup, Microsoft a lancé un nouveau navigateur qui s'appelle Edge. Donc, il y a déjà un petit moment déjà qu'il existe. Et récemment, en fait, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de développer leur propre moteur. Donc le moteur, en fait, bah c'est comme son nom l'indique, hein, ce qui fait tourner le rendu des pages, en fait, pour le web. Et donc du coup ils se mettent à utiliser Chromium, qui est donc la version open source de Chrome, mais qui inclut aussi le moteur, en fait, pour le rendu des pages. Donc voilà, donc en fait Edge devient un peu un Chrome avec une surcouche, en fait, pour le dire simplement. Et c'est le cas aujourd'hui d'une majeure partie, en fait, des navigateurs, puisque à l'exception de Mozilla, la fondation Mozilla qui développe Firefox, tout le monde aujourd'hui utilise Chromium, y compris Opera, qui a fait ce changement il y a, je sais pas, plusieurs années déjà, mais qui avait aussi son propre moteur, et donc du coup qui s'est décidé à passer à Chromium. Je pense d'ailleurs, je dis ça de mémoire, mais tu confirmes ou tu contestes, Nico, si je dis des bêtises.
J'ai juste un doute, moi, c'est sur Safari. Ils sont aussi sur Chromium ?
Ah non, c'est très bonne remarque. Safari n'est pas sur Chromium. Safari a son propre moteur, c'est vrai. Donc voilà.
Il y a plus beaucoup de concurrents.
Mais navigateur web. Exactement, c'est ça. Il y a plus grand monde, et en fait Chromium est un peu le moteur de rendu de page web par défaut, en fait, pour les navigateurs. Et donc du coup, Microsoft a des ingénieurs, et il faut bien les occuper. Et donc ces ingénieurs deviennent contributeurs, en fait, au projet Chromium. Et donc là, il s'avère que, donc c'est un exemple parmi beaucoup, j'imagine, mais un exemple assez notable qui indique que donc Microsoft a fait une proposition pour améliorer Chromium. Et donc du coup c'est au sujet de, alors si j'ai bien compris, au sujet de la lecture des médias. Donc il semblerait que il y avait, c'est un peu technique, hein, mais il semblerait que les médias, quand tu lis une vidéo par exemple sur Chrome, il était mis en cache dans le disque 2 fois, en fait, à la fois quand tu télécharges et quand tu le joues. C'est un peu technique. Moi-même, d'ailleurs, je suis pas forcément sûr de comprendre les tenants et les aboutissants du changement. Mais donc là, a priori, il semblait que c'était redondant et donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir de mettre le média en cache dans le disque à chaque fois. Et donc en supprimant ça, en fait, on va du coup éviter d'avoir le disque qui tourne quand tu joues le média ou quand tu interagis avec le média. Et ça devrait réduire un petit peu la consommation batterie en fait de Chrome.
Ouais,
Donc
alors et ce qui est assez intéressant, c'est que Google a écouté Microsoft, ils l'ont implémenté dans leur navigateur Chrome également. Et donc pour l'instant, on peut le tester. Alors je sais pas si c'est sur la version 77 de Chrome OS ou de Chrome, mais sur la version 78, ça fonctionne déjà. On a un flag expérimental à activer. Je vous le mettrai dans les notes de l'émission. Et moi, je l'ai activé il y a déjà parce que ça fait quand même un mois et demi, 2 mois. Je crois qu'on était passé, on avait oublié d'en parler la dernière fois.
Mmh.
Et moi je l'utilise. Alors je peux pas dire si ça fonctionne bien ou pas. Mon Chrome, alors je suis pas un gros, je regarde pas énormément de vidéos sur mon Chromebook, mais il s'avère que quand je regarde des vidéos, ma batterie elle fond pas comme neige au soleil. Alors,
ouais.
Donc est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, ça m'a rien coûté de l'activer et je l'ai pas désactivé depuis. Et pour l'instant, ma batterie tient bien, tu vois. Moi, je suis mon Chromebook, il a allumé depuis très tôt ce matin, vers 7h30, un truc comme ça, sur batterie, et il me reste encore 8 heures d'autonomie. Et pourtant, le fiston a squatté YouTube pendant au moins 1h30. Donc, ça doit faire quelque chose, j'imagine. Mais en tout cas, c'est cool de voir que des géants comme Microsoft, qui étaient ennemis il y a quelques jours, deviennent, alors peut-être pas amis ou complices, mais travaillent dans le même sens pour améliorer l'usage de la navigation web via Chromium. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Il manquerait plus que Safari vienne nous aider aussi.
Ouais, je sais pas. Vas-y.
Un jour, ils seront copains un peu, les Google.
Peut-être, hein, peut-être. Je sens qu'il y a une transition là.
Non, pas tout de suite. Non.
Ah, ok. Suite. D'accord.
Non, on a plein de. tu me parlais aussi. Alors là, encore un truc technique que t'avais envie de m'embrouiller ce soir. Tu me dis, ah tiens, moi je me lève, je suis de bonne humeur, en forme, et Nicolas il va bientôt aller se coucher. Tu me parlais des DNS over HTTPS pour Chrome 78. Alors je t'ai même demandé ce que ça voulait dire. Tu m'as fait une traduction. Bah bonne chance pour traduire aux autres personnes.
Donc on va répéter. Je vais essayer de répéter de façon plus claire ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc oui, donc vous savez probablement que Chrome vous force en fait, enfin force le HTTPS. Donc le HTTPS, c'est le, comment dire, en gros c'est une communication qui est chiffrée en fait entre votre site, entre le site sur lequel vous allez et votre navigateur. Donc par défaut en fait, même si le site ne force pas le HTTPS par défaut, en fait le navigateur va essayer malgré tout d'établir cette connexion en mode chiffré. Et d'ailleurs, de plus en plus, maintenant, vous voyez que l'étape d'après, ça a été d'ailleurs de mettre tous les sites qui ne supportent pas HTTP comme HTTPS comme étant non sécurisés. Donc, de temps en temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez des fois le petit cadenas, enfin, là où d'habitude on affiche un petit cadenas quand il y a du HTTPS, la petite mention non sécurisée quand vous allez sur un site qui ne supporte pas HTTPS. Et donc, l'étape d'après, en fait, c'était de rajouter le DNS over HTTPS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le DNS, c'est une sorte d'annuaire en fait qui va convertir par exemple mychromebook.fr en une adresse IP. Et donc du coup, quand vous voulez aller sur mychromebook.fr, ben disons que votre internet ne sait pas exactement à quoi ça correspond, donc vous allez parler à un DNS qui va vous retourner une adresse IP avec des chiffres, des points et des chiffres. Et le truc, c'est que en fait, cette connexion-là entre votre navigateur et le serveur DNS n'était pas chiffrée n'était pas chiffrée en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que si vous utilisez, je sais pas, mettons un réseau ouvert, que ce soit un Wi-Fi ouvert, que ce soit un aéroport ou un, je sais pas, dans un hôtel, enfin tout les ce qu'on appelle les captive portals, donc tous les sites sur lesquels, quand on vous dit il y a pas de mot de passe pour se connecter au Wi-Fi, mais quand vous ouvrez le Wi-Fi, on vous affiche une page dans laquelle il faut rentrer un login et un mot de passe directement sur le web. Et ben ça, en fait, ça veut dire que les communications sur le réseau se font en clair. Donc quelqu'un qui voudrait sniffer les paquets et regarder le trafic Wi-Fi aurait potentiellement accès à toutes les communications en clair si la connexion entre vous et le site web n'est pas faite via HTTPS. Donc avec HTTPS, du coup, on voit plus puisque c'est chiffré, mais par contre on continue à voir le trafic entre votre navigateur et le serveur DNS. Et par exemple, on voit que vous êtes allé sur mychromebook.fr. On sait pas ce que vous y avez fait, mais on voit que vous êtes connecté au site. Et donc du coup, eh bien, Chrome pallie à ça en forçant la connexion entre le serveur DNS et votre navigateur en HTTPS. Donc du coup, maintenant, les connexions sont chiffrées, donc on ne verra même pas vos échanges de communication entre le DNS et Chrome OS. Comment c'était, Nico?
Est-ce que c'était plutôt pas mal, hein?
C'était clair.
C'était plutôt bien. J'ai tout compris. Enfin, tu m'avais déjà expliqué 8 fois avant, donc maintenant je comprends bien. Donc en gros, je fais un résumé de ton résumé. Avant, les HTTPS, ça nous permettait de sécuriser, donc on pouvait pas nous piquer nos identifiants, nos mots de passe, hein. C'est à peu près ça.
Ouais, c'est ça.
Tu me dis si je me trompe. Et puis, par contre, on pouvait quand même voir où tu allais sur Internet. Donc, c'était moins grave. On savait juste que tu aimais les Chromebooks parce que tu allais sur My Chromebook ou que tu préférais Apple parce que tu allais sur Apple.com. Et aujourd'hui, en fait, tu es en train de me dire qu'on peut même plus savoir où la personne va.
Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, disons que si tu te contentes simplement de sniffer les paquets à échanger, tu vois plus l'information puisqu'elle est chiffrée. Voilà.
Ok, bah écoute, c'est une bonne chose. Ça me paraît intéressant. Ça me paraît intéressant. Mais les DNS, on peut pas choisir nos propres DNS. Enfin, non, on sniffait. Il y a quelqu'un qui sniffait simplement notre parcours. Et puis, peu importe la DNS qu'on utilisait,
ouais.
Le catalogue DNS. Il savait ce qu'on faisait, c'est ça.
Ouais, voilà, le serveur DNS, en fait, hein, comme tu dis, c'est l'espèce de grand annuaire un annuaire, même des fois un annuaire d'annuaires, parce que quand il a pas la réponse, il va demander à d'autres annuaires de sites. Et c'est vrai que oui, tu peux utiliser tous les fournisseurs d'accès à Internet ont leur propre DNS, Google a son propre DNS. Donc, disons qu'il y a plein de serveurs DNS qui existent. Malgré tout, les protocoles qui sont utilisés restent les mêmes. Donc là, maintenant, avec HTTPS, DNS over HTTPS, qui est pas nouveau, hein, d'ailleurs, je pense pas que ça a été inventé par Google non plus. Mais c'est juste que c'était assez marginal et c'était utilisé par très peu de gens. Et là, du coup, donc Chrome, à partir de la version 78 de Chrome, eh ben, ça va devenir le défaut, en fait. Enfin, ça va être activé par défaut. Donc voilà, donc c'est une
belle nouvelle.
Une bonne nouvelle, ouais.
C'est toujours bon à prendre.
Absolument.
On continue dans les nouveautés, mais des trucs plus simples à expliquer, ça te va?
Ça me va, ouais.
Donc j'en ai parlé sur My Chromebook, on a la possibilité maintenant, depuis la version 78, de partager une page Chrome vers un mobile, ou inversement. Tu vas sur mychromebook.fr, tu veux te l'envoyer sur le mobile parce que t'as pas eu le temps de lire tout la totalité de l'article, ou tu veux voyager, ou tu veux ne pas perdre le lien parce que tu t'es dit, ah, c'est intéressant, je veux le mettre sur mon téléphone pour le regarder dans le bus. Aujourd'hui, tu faisais comment, toi? Tu fais ça t'arrive sur ton PC, sur ton Chromebook, de dire, tiens, je vais mettre en cache, enfin, je vais garder l'adresse URL et puis la lire plus tard, ou un truc comme ça t'arrive?
Ouais, absolument. Et j'utilise Keep, en fait, pour ça. Quand j'utilise pas, ou j'utilise Pocket, des fois, quand c'est un article qui est assez long. Mais si c'est juste un lien, et que je veux pas particulièrement lire l'article, en général, j'utilise Keep pour ça. Mais oui, là, en effet, c'est pratique.
Ouais, c'est ça, tu balances directement. Alors moi, je l'utilise dans l'autre sens, je l'utilise de mon smartphone vers mon Chromebook, en fait. Parce que, c'est chiant de lire sur un téléphone, un article. Et très souvent, je commence à lire parce que je suis dans le train ou parce que je suis dans un bar ou un truc comme ça, ou au bureau ou pendant une réunion, mais ça, je ne peux pas le dire. et je le balance sur mon Chromebook, donc je fais un appui, enfin menu partagé depuis mon téléphone Android, et puis envoyé vers Chrome, et puis il me demande sur quel produit je veux l'envoyer, donc je me dis mon Chromebook, et puis quand j'ouvre mon Chromebook, j'ai une notification en bas, j'ai juste à cliquer dessus, puis pouf, j'arrive au même endroit que j'étais sur mon téléphone. Moi, je le fais plus dans ce sens-là, je trouve ça génial, mais avant, j'utilisais Pocket pour faire ça, et du coup, j'ai plus besoin de Pocket. Alors, je l'utilise encore parce que ça permet d'avoir du offline, des articles offline, et puis un peu dépouillé de tout ce qui est publicité, mais c'est vraiment très pratique. En tout cas, je trouve ça vraiment exceptionnel. Toujours dans cette continuité de convergence des OS, Google a commencé. Alors, j'ai pas encore pu l'utiliser, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être un bug sur mon produit, mais ils intègrent un système de presse-papier entre les produits également. Typiquement, tu sélectionnes du texte, tu as un petit paragraphe, tu le sélectionnes, clic droit, envoyer vers mon smartphone et hop, automatiquement, il est dans le presse-papier. Et depuis ton smartphone ou depuis un autre appareil, tu peux reprendre ton copier. Donc, il est quelque part. Je ne sais pas comment le dire. Et tu as juste à faire contrôle V pour le coller à l'endroit où tu veux. En fait, tu fais un appui long et puis coller et automatiquement, il le colle. Donc, ça, c'est un presse-papier global, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué le truc, mais c'est le contrôle C qui est partout et puis le contrôle V qui est partout aussi. Ça va, c'est bien.
Ouais, ça va.
T'as compris.
Et d'ailleurs, pendant que tu expliquais, je suivais, mais en même temps, j'étais aussi en train d'essayer de tester. Il y a un flag pour l'histoire de cet envoi d'onglet vers un autre appareil.
Je l'ai mis dans l'article. T'as un flag à un ou deux. Je sais plus si c'est un ou deux flags à activer. T'as un flag à activer, ouais, je crois. Oui, bien sûr. Pourquoi tu n'en aurais pas? C'est une bonne question, je me souviens même pas.
Parce que c'est marrant, moi je l'ai pas activé par défaut et je ne vois pas la mention d'un flag dans ton article. Donc j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui est disponible pour tout le monde ou s'il y a une étape à faire avant pour pouvoir y avoir accès.
Eh ben écoute, tu me poses une colle parce que pour moi c'était un flag, mais effectivement je relis le dernier article que j'ai fait. Et oui, c'est un flag, il y a un flag à activer, c'est sûr. Dans le dernier article, c'est comme quoi il était fonctionnel. Le premier, j'avais fait un premier article qui expliquait que ça allait arriver.
D'accord.
Et le deuxième explique que ça y est, c'est fonctionnel, mais j'aurais dû mettre le flag. Donc tu vois, je vais le rajouter dans l'article.
Some tap to fails. Ok, to self. Ah ouais, t'as raison, il y a deux flags en fait. Il y en a un pour...
Deux flags à activer.
Ouais, c'est ça. Il y a même trois flags, j'arrive pas à savoir... Ok, ouais, bref.
Tu les actives pas et tu remets pas ton Chromebook tout de suite. Hein.
Non, je regarderai ça après. Mais ouais, en effet, c'est ça, il y a deux flags, donc c'est pour ça que je ne le voyais pas.
Ouais,
super.
Je les remettrai dans l'article que j'ai mis en lien.
Ok, parfait.
Pour le presse-papier, c'est la même chose. Hein. Il y a un flag à activer.
D'accord, ok, super.
Pour l'instant, c'est que des versions en mode de développement bêta. Mais vu la qualité des trucs, sincèrement, je vois pas comment ils pourraient ne pas l'intégrer, en fait.
Ouais, ouais, absolument. Ok.
C'est assez bluffant et je trouve ça super bien intégré. C'est pas juste, tu vois, c'est pas un truc qui a été fait à l'arrache. On se dit tiens, on va balancer un truc comme Google sait le faire. D'habitude, ils balancent un truc, c'est pas forcément bien intégré au départ. Et là, c'est directement dans les notifications de Chrome OS. Tu es dans le menu d'état en bas à droite, t'as la notification qui apparaît. T'as juste à cliquer dessus et tu peux en envoyer 10 si tu veux. T'auras 10 notifications qui apparaîtront bien séparées les unes des autres.
D'accord.
Donc ça, vraiment, moi je trouve ça vraiment très intéressant. D'avoir fait ça et comme c'est en fait ça m'évite parce que des fois peut-être pour les pages web j'allais sur Chrome 2./ history pour voir ce que j'avais visualisé sur d'autres appareils.
D'accord.
Le copier sur Keep, encore fallait-il que je me souvienne quand est-ce que je l'avais vu et compagnie, mais bon c'est jour par jour donc généralement ça va mais là c'est vraiment bien fait en fait, j'ai trouvé.
Ok,
on continue là-dedans. Ah bah tiens, j'ai remis deux fois la même chose, je crois, non? deux fois la même news. Bah, l'autre article, il est peut-être bien, non? Donc, ouais, pour envoyer... Ah bah, j'ai fait deux fois le même. Ah bah, du coup, c'est cool. On n'en parle pas. Les onglets groupés, on va parler
des onglets. On est dimanche, hein, comme vous voyez. Hein, on est très bien organisé, mais en même temps, c'est le week-end. Hein.
Et ouais. Non, mais je trouve ça tellement bien que je voulais en parler deux fois.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Mais bon, on a quand même un autre truc qui est super intéressant, j'en ai déjà parlé, c'est les onglets groupés sur Chrome OS. Tu m'en as parlé, tu trouvais que c'était un petit peu encore limite. Moi, j'ai avancé un petit peu dans l'usage des onglets groupés, donc ça me permet de regrouper des pages web entre elles. Typiquement, quand j'écris un article, j'ai souvent la page de Google Developer ouverte, j'ai souvent un ou deux autres sites en liaison à ça parce qu'il y a des thèmes que je connais pas, autre chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le bordel, ils sont dans mes onglets un peu partout. Et grâce à l'onglet groupé, en fait, je fais un clic droit et regroupé dans un onglet que cette fois, je peux renommer, je peux changer la couleur. Et la prochaine évolution, ce sera un liseré qui entourera la totalité des onglets plutôt qu'une couleur assez pastel et assez moche, hein, faut le dire, qui permettait de faire ça. Cette fois, on est sur une étape presque finale parce que c'est vraiment stable. Donc, pour ceux qui vont l'utiliser aujourd'hui, qui sont en Chrome OS 78, attendez un petit peu parce que cette fonctionnalité a tendance à faire rebooter le Chromebook. Donc, peut-être pas le faire tout de suite si vous avez des choses. Mais sinon, ça marche bien.
Moi, j'aime pas. je veux pas te casser ton ambiance. Non, mais en fait, moi, je l'ai supprimé parce que c'était trop buggé. Et comme tu disais, ça faisait assez régulièrement rebooter le Mac. Puis il y avait des bugs, il y avait des espèces d'artefacts. En gros, t'avais le label qui était affiché pour l'onglet. Des fois, s'affichait au-dessus de l'onglet en question. Enfin, on sent que, c'est une fonction qui est en bêta. Hein. Il y avait un flag. Donc, j'ai activé le flag pour tester. Et puis, j'ai fini par l'enlever. Je pense que t'as raison. Hein. Dans le fond, c'est une très bonne idée. Il est temps de pouvoir organiser ses onglets, mais pour le décrire un petit peu, enfin, en fait, ça revient un petit peu à rajouter un peu comme quand t'as un classeur avec tes pages et du coup tu vas rajouter des intercalaires, c'est un peu ça l'idée, non?
C'est exactement ça, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc c'est.
Et puis tu sais que moi.
Vas-y.
Ce que je disais, c'est exactement ça, c'est des intercalaires de couleurs que tu segmentes en fonction de, bah, tu mets histoire, géographie, mathématiques et compagnie, quoi.
Voilà. Ça nous rappelle notre enfance. Mais ouais, en gros, c'est ça. Tu transformes tes onglets, enfin, tu organises tes onglets avec ces intercalaires-là. Je pense que c'est une petite addition sympa. Après, j'avoue que, bah oui, comme c'était buggé à l'usage, ça m'a un peu découragé. Mais on va attendre que ça devienne un peu plus stable et puis je réessaierai quand ce sera stable.
Après, dans le même esprit, tu peux utiliser les bureaux virtuels finalement et ouvrir deux fenêtres Chrome.
Absolument, ouais.
Tu vois, si tu veux pas utiliser les onglets groupés.
Ouais, c'est vrai. Ouais, va falloir jouer un petit peu avec tout ça et puis trouver une organisation qui fonctionne bien. Mais
il y en a pour tout le monde.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. On a l'impression qu'ils font un peu des tests et qu'ils partent un petit peu dans toutes les directions et puis après en fonction des usages, ben peut-être qu'ils mettront en avant une solution par rapport à une autre. C'est vrai que les bureaux virtuels, bon, on vous en parle déjà depuis un petit moment. C'est quelque chose qui est assez courant, hein, qu'on utilise Mac ou Linux, c'est quelque chose. Ou d'ailleurs, je sais pas si ça existe. Ça donne quoi sous Windows? Il y a l'équivalent des bureaux virtuels aussi?
Oui, bien sûr.
D'accord. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas utilisé Windows, donc j'avoue que je suis un peu perdu. Mais donc voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est pas très très originale, mais le fait qu'elle arrive sur Chrome OS, du coup, ça nous donne un nouvel angle d'approche, on va dire, de la plateforme. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment les gens vont se mettre à utiliser les bureaux virtuels. Tu l'utilises, Nico, toi, au quotidien, les bureaux virtuels?
Et je me suis surpris. Alors, je l'utilisais pas avant, bizarrement. J'utilisais très peu sur mes ordinateurs. Je préférais avoir deux vrais écrans physiques.
Ouais.
Sur mon Chromebook, je l'utilise quasi tous les jours maintenant. Et surtout qu'ils ont ajouté des nouvelles gestuelles et des nouveaux raccourcis clavier au bureau virtuel, ce qui permet... Tu les as eu toutes ces gestuelles raccourcis?
Ouais. Alors, les gestuelles, j'utilise surtout le glisser à trois doigts, là. Qui d'ailleurs t'as dit quoi, vers le bas ou vers le haut? Moi je dis gauche droite.
Alors soit tu pour passer en multi-fenêtre, tu scrolles du haut vers le bas en trois doigts.
Mais c'est génial.
Ça permet d'amener tes multi-fenêtres, paramétrer ton bureau virtuel. Donc tu déplaces après les fenêtres que tu veux dans les bureaux que tu souhaites.
Ouais.
Et puis l'autre mouvement que tu dois utiliser, c'est pour passer d'un bureau à un autre quand tu scrolles de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche en fonction d'où tu es dans tes bureaux virtuels, pour passer d'un bureau à un autre, en fait.
Ouais. Et ça marche très très bien. Ah, et alors par contre, du coup, ça vient en conflit avec le glisser à trois doigts qui existait avant, qui te permettait de passer d'un onglet à l'autre. Je sais pas si t'as remarqué. Donc maintenant, tu es obligé de faire ça avec quatre doigts. Est-ce que t'avais remarqué cette petite subtilité?
Ouais, j'ai remarqué parce qu'en fait, à la base, les bureaux virtuels, pour passer de l'un à l'autre, c'était quatre doigts.
D'accord. Et ils l'ont changé, ils l'ont passé à trois doigts.
Ouais, ils ont interverti les deux. Je t'avouerai que je sais pas si c'est mieux ou pas. Ça m'a pas choqué, en fait, que j'utilise trop quatre doigts. La seule chose qui m'a un petit peu galéré, c'est que, sur Chrome, quand tu scrolles de gauche vers la droite, ça te permet de revenir en arrière si t'as activé le flag de sortie, enfin, de plante que t'avais visité.
Ah ouais. D'accord. Ça marche plus, du coup?
Mais ça m'a un peu perturbé parce que du coup je savais plus quoi faire. C'est trois doigts, quatre doigts, deux doigts. Qu'est-ce que je fais de mes doigts? Bref, il y avait trop de doigts. Je savais plus quoi en faire.
Et mais alors attends, du coup pour revenir en arrière, ça existe, c'est plus supporté du coup. C'était quatre doigts
si,
avant.
Si, si, si. Non, c'était deux doigts, mais vu qu'ils ont, ils sont passés de trois doigts à quatre doigts, les deux doigts, je savais plus.
Ah.
On parle beaucoup de doigts. Mais tu scrolles de gauche vers la droite, avec deux doigts, et tu reviens à la page précédente.
Ouais,
Et
c'est ça.
inversement, de droite vers la gauche,
Ouais.
inversement, tu passes. Avec trois doigts, tu passes d'un bureau virtuel à un autre, et avec quatre doigts, tu changes d'onglet.
Ouais, et non, t'as raison, ça marche bien. J'ai un testé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, je sais pas si t'as eu l'occasion de tester Android 10, hein, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cet épisode. Il y a les nouvelles gestuelles de navigation aussi été modifiées, et je t'avoue que comment dire, ça met un peu le bazar, on va dire, dans certaines interactions que tu peux avoir avec certaines applications. Mais pour rester sur Chrome OS, oui, t'as raison, donc deux doigts, c'est simple, hein, deux doigts en avant, deux doigts en arrière, c'est pour changer le... En gros, avancer dans l'historique des pages, trois doigts c'est pour changer de bureau et quatre doigts c'est pour changer d'onglet. Donc finalement, c'est une fois qu'on a enregistré ça, finalement c'est pas trop mal, c'est assez intuitif et ça fonctionne quand même bien.
Puis ils ont rajouté également les comment s'appelle les raccourcis clavier
Alors ça, par contre, faut que tu
pour
m'expliques parce que ça je connais pas. C'est quoi alors du coup les raccourcis?
donc tu peux pour ton bureau virtuel ben tu vas pouvoir activer un bureau virtuel à gauche. Alors toi tu as de la chance d'avoir d'être aux États-Unis donc d'avoir plus de raccourcis clavier que nous en France, mais typiquement tu fais un recherche parenthèse droite. Ferme parenthèse fermée et tu vas pouvoir activer le bureau virtuel à gauche automatiquement. Donc ce qui t'évite d'aller dans de scroller vers le bas avec les trois doigts, de cliquer sur nouveau bureau. Là, tu peux le créer directement. Tu peux créer un nouveau bureau virtuel sans distinction de droite ou gauche avec majuscule plus recherché plus égal. Donc ces trois boutons-là. Tu peux déplacer une fenêtre active vers la gauche avec majuscule plus recherché plus parenthèse fermée. Donc je vais le mettre dans les notes de l'émission. J'avais fait un article là-dessus avec les 1, 2, 3, 4, 5, 5 raccourcis clavier qui sont disponibles dans l'aide en ligne de Google hein, de toute façon.
D'accord.
Je rajoute les bureaux virtuels.
Alors attends, tu dis recherche, le bouton recherche, et là je suis sur le Pixelbook qui n'a pas de bouton recherche. Donc c'est
À
quoi
la
l'équivalent?
loupe.
Eh ben figure-toi que je ne l'ai pas. J'ai...
Instant.
Comment tu dis?
T'as le bouton ainsi.
Ouais.
De shift majuscule, c'est quoi?
Shift, au-dessous de shift, ouais, assistant, ouais.
Tu cliques
Mais...
dessus, non, pour toi.
Non, non, ça, non, ça a pas l'air de marcher, ça a pas l'air de marcher. Ok, bah écoute, je vais jouer avec, je vais essayer de pas rebooter l'appareil
Ouvre la
pendant qu'on
barre
enregistre.
de. Comment tu ouvres la barre des applications, telle la barre de recherche et les applications sur ton onglet Pixel?
Eh ben, j'ai pas de bouton en fait, ça, pour ça, à ma connaissance.
T'as pas de bouton, ils t'ont viré le bouton, les salauds.
Ils m'ont viré le bouton, ouais. J'ai le... Ouais, ils ont... Enfin, je sais que... Le Pixelbook avait un genre de for enfin un format clavier un petit peu différent des autres et j'ai l'impression que ouais bref je regarderai. J'imagine qu'il y a un moyen, il y a probablement une succession de touches sur lesquelles il faut que j'appuie mais je les ai pas trouvées.
Je crois que c'est le bouton au-dessus de majuscule, tu peux. Non, bah si, t'as le bouton au-dessus de majuscule.
Ah oui, j'ai trouvé. OK. C'est bon.
Bouton recherche, là.
Ouais, et ça
C'est ça?
marche. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que il ressemble à un caps lock,
Ouais, c'est ça.
mais il se comporte pas comme un caps lock en fait. Ok, bref, on a trouvé.
Du tout. Sur
C'est
Chrome
bon.
OS, pour capturer quelque chose, c'est majuscule recherche, justement. Enfin,
Ouais,
majuscule
c'est...
ce bouton-là.
D'accord.
Alt, ce bouton-là. Donc les bureaux virtuels, c'est vraiment sympa à utiliser. Je l'utilise très souvent. Comme ça, je segmente, par exemple, quand j'écris un article, j'ai ma première page. La deuxième page, c'est toutes mes recherches avec des onglets avec des groupes d'onglets. Et ma troisième page, c'est souvent tous mes chats, en fait. Mes mails et puis mes chats qui sont en cours. Ce qui fait que ça m'évite de switcher entre les onglets, de passer d'une application à une autre. Là, je passe d'un bureau à un autre avec la simple Alt Tab. Et là, le Alt Tab, il est encore mieux parce que je passe d'un bureau à un autre en sélectionnant une application bien spécifique. Ça va vachement vite comme ça. En tout cas, moi, je préfère.
Ouais, en effet. Ok. Bon, donc voilà,
D'accord?
c'était le petit moment expertise raccourci clavier.
J'adore les raccourcis clavier, je suis très fan. Je suis très fort.
On parle du rich media, des notifications rich media.
Une évolution que je trouve très très intéressante, tu m'as dit que tu l'avais vue aussi, je crois. Donc Google a intégré sur Chrome OS le système de Rich Media, donc qui permet d'avoir dans ta barre des notifications de donc le menu d'état sur Chrome OS en bas à droite, d'avoir accès au comment on peut appeler ça, un lecteur de médias, non, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, un lecteur de médias qui te permet d'avoir la jaquette de ton album, le nom de l'artiste, la musique qui est en cours d'écoute, et tu peux play, stop, avancer, arrêter, tu peux venir en arrière, accélérer, ralentir, passer à une musique suivante, et ainsi de suite. Et ça, ils l'ont intégré donc à peu près partout. Donc pour ceux qui l'ont vu, il est depuis un petit moment déjà dans le menu d'état de Chrome OS. Et depuis peu, ils l'ont intégré également à Chrome directement, donc au navigateur web Chrome. Alors, ce que je dis là, ça fonctionne sur Chrome OS, mais ça fonctionne partout à partir du moment où il y a Chrome. Ça peut être du Mac, ça peut être du PC classique, ça peut être. Enfin, ça marche partout, même sur Linux d'ailleurs. Et donc, tu as le petit bouton, le petit triangle qui pointe vers la droite pour lancer la lecture. Et tu as ta carte média qui apparaît directement dans Chrome. Donc, toujours pareil avec toutes les informations nécessaires pour avancer, reculer, mettre pause et compagnie. Et ça, c'est super intéressant parce que maintenant, tu n'es plus obligé d'aller en bas à droite. Il suffit d'être dans ton navigateur, tu cliques, ça y est, c'est réglé. L'autre chose qui est encore plus intéressante et qui est arrivée il y a une semaine, je crois, donc dans la version 78 de Chrome OS, qui va arriver donc pour vous d'ici un mois, je pense, 30 jours, un mois. 30 jours, un mois, c'est un peu préparé. Qui est la possibilité d'avoir cette carte directement sur la page de verrouillage de session, là où tu dois taper ton code en fait pour ouvrir ta session. Et ben t'as ta carte média qui apparaît juste là. Alors moi je trouve ça super intéressant. J'ai discuté avec des potes et qui me disaient mais quel est l'intérêt d'avoir ça si t'as verrouillé ta session, c'est que t'es pas devant ton machin. Et ben moi si en fait, c'est pas parce que j'ai verrouillé ma session que je suis pas en train d'écouter de la musique, parce que j'utilise mon Chromebook pour balancer sur du Bluetooth à la maison ou sur mon casque stéréo, mon casque sans fil. Et du coup, ça me permet de continuer à écouter ma musique sans avoir à prendre un autre appareil. Et quand je quitte mon poste, ben un recherche elle, je quitte la session, mais je peux toujours naviguer dedans si j'ai besoin, et je peux aller mettre sur pause si j'en ai besoin également. Et ça fonctionne avec. Alors moi, j'ai un casque Bluetooth, c'était un peu un AirPod, mais chez Huawei, donc le AirBud, je crois, chez eux, qui me permet de mettre sur pause juste en tapotant sur l'oreille droite. Et puis de remettre lecture en retapotant à nouveau dessus. Donc, je trouve ça génial d'avoir ça même sur ma version de verrouille, ma session verrouillée. Donc, voilà, je tenais à en parler je sais pas toi si tu trouves que c'est bien. Là, c'est toi qui vas me le dire.
Ouais, je t'avoue que j'utilise pas forcément souvent mon Chromebook comme jukebox. Parce que c'est un peu ça dont on parle finalement, hein. C'est le truc joue et tu veux le verrouiller, mais tu veux que ça continue à jouer. Mais par contre, l'idée d'avoir ça, en fait, c'est intéressant. Je pense que ça rajoute des fonctionnalités auxquelles on pense pas forcément. Je me dis le jour où on n'y est pas encore, mais le jour où t'as Android Wear qui peut se connecter à ton Chromebook par exemple. Je parle de science-fiction un petit peu là, mais du coup ça veut dire que tu auras potentiellement accès au contrôle directement sur ta montre, tu vois, typiquement, parce que ça utilise le même les mêmes comment dire les le même type de fonctionnalité que ce que tu peux trouver sur Android, et du coup ça rend ton Chromebook compatible avec ces fonctionnalités là. Enfin, je sais pas, je vois plus le potentiel que ça ouvre plutôt que l'usage direct au quotidien. Mais bon.
Moi je trouve ça bien. Bon après c'est qu'un gadget, hein, j'avoue, hein, c'est pas non plus, on va pas mourir de ça si on ne l'a pas,
Ouais,
mais j'ai
voilà.
trouvé ça intéressant, hein. C'est toujours ça à prix. Et ceux qui n'aiment pas, je dirais, bah l'utilisez pas. Ceux qui l'aiment, utilisez-la. C'est facile quand même.
Voilà, je pense que ça peut être la conclusion de cette section Chrome OS, et ça peut être appliqué à tous les trucs dont on vient de parler. On enchaîne, on attaque vite fait. On est déjà à 40 minutes d'enregistrement, on a encore plein de trucs dont on
Ah
doit
bon, bah
parler.
on va se dépêcher parce que t'es un peu pour à faire
Ouais,
cuire, tu m'as dit.
faut qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche. Donc on va enchaîner, on parle des applications.
Peu. Alors, moi je connaissais déjà, hein. Moi je savais pas que c'était compatible Chrome OS, mais je connaissais. Tu me parles d'un truc. Alors, tout le monde va se dire ici, mais on s'en sert pas, mais peut-être que si, il y a des podcasteurs qui nous écoutent et qui aimeraient passer sur Chrome OS et aujourd'hui. ils peuvent pas. Enfin, ils ont des difficultés parce qu'ils sont pas aussi débrouillards que nous. Et du coup, là, tu nous dis que une application qui est quand même pas mal utilisée est enfin disponible sur Chrome OS. C'est ça.
Ouais, juste pour en parler vite fait. Hein, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler trop longtemps. Mais oui, donc Spreaker, qui est un service en fait de création de podcasts, vient d'être lancé sur Chrome OS. Donc du coup, ils ont créé une application Android compatible. Enfin, en tout cas. Penser avec Chrome OS en tête. Donc pour être très honnête, je l'ai pas encore utilisé. On l'a pas encore utilisé, mais je pense que c'est peut-être l'occasion pour nous de faire un essai et de tester l'enregistrement de Spreaker en utilisant cette application-là. Voilà, donc c'est une étape de plus qui confirme que Chrome OS devient une plateforme qui intéresse les développeurs d'applications. Donc voilà, Spreaker sur Chrome OS. Je te propose qu'on enchaîne.
Tu vas nous parler d'un truc qui touche tout le monde, que tout le monde a dans sa poche pas tout le monde a ça, mais tout le monde a un smartphone, pas tous des Pixels, mais tout le monde a au moins un forfait et est en train de me dire qu'il y a une petite révolution qui se programme aux États-Unis et elle est à l'initiative de Google.
Ouais, alors bon, quand je t'ai présenté ça, t'as un peu rigolé dans ta barbe, mais moi j'étais tout content, donc Google Google c'est mon fournisseur mobile. Donc je suis aux États-Unis et donc Google a un opérateur mobile virtuel, un opérateur mobile à réseau virtuel qui s'appelle Google Fi. Donc ça a démarré il y a 3 ans je pense maintenant avec quelque chose qui s'appelait Project Fi. Donc c'était très en mode bêta, hein, classique Google. Donc c'était l'idée c'était d'utiliser les réseaux de T-Mobile juste au début et puis après ils ont étendu ça à Sprint qui sont les deux petits opérateurs de mobile ici aux États-Unis. Donc ils utilisent leur réseau, mais c'est très Google, on va dire, dans la façon dont c'est intégré à votre téléphone. Au début, c'était que pour les Pixels, puis après c'était que pour les téléphones Android, et puis là maintenant, potentiellement, on a quand même beaucoup d'avantages à l'utiliser sur Android, mais c'est aussi utilisable sur iOS. Qu'est-ce que ça propose? Ça propose depuis peu en fait, hein, avec leur nouveau forfait illimité, en fait jusqu'à 22 gigas en 4G pour $70 par mois. Et c'est là où Nico a commencé à rigoler en disant mais c'est super cher. Et en France tu as de l'illimité pour ce prix, enfin pas pour ce prix-là, pour un tiers de ce prix-là avec un certain nombre d'opérateurs. Ce à quoi j'ai répondu oui, mais la France, ça fait partie. Comment tu dis ?
Oui, mais c'est pas Google.
C'est pas Google, c'est vrai, mais bon, malgré tout, je t'avoue que si j'avais le choix, même en passant de Google et en payant un tiers du prix pour la même chose, voire mieux, potentiellement, je le ferais. Mais il s'avère que les 22 gigas pour $70 par mois. Et j'ai oublié de préciser d'ailleurs, appel à l'international dans des États-Unis vers plus de 50 pays gratuits. Et aussi, la data à l'international est inclue dans plus de 200 pays. Et c'était ça la force de Google dès le départ, en fait, c'était d'offrir du roaming inclus dans votre forfait. Donc, en gros, quand vous êtes à l'étranger ou quand vous êtes aux États-Unis, ça compte. Enfin, aux États-Unis pour moi. Donc, quand vous êtes à la maison pour moi aux États-Unis ou quand vous êtes à l'étranger, en fait, ça compte dans votre forfait classique. Donc, il n'y a pas de concept de roaming. En gros, ils arrivent et ils vous disent vous êtes en Belgique, bienvenue. Google Fi fonctionne comme la maison ici, donc n'hésitez pas à utiliser votre téléphone. Donc pas besoin d'acheter une puce, pas besoin d'appeler votre opérateur avant de partir pour leur dire hey, je vais à l'étranger, mettez-moi le pack roaming. Tout ça c'est directement intégré. Et ça c'est pas nouveau, hein, c'était comme ça au départ. La seule différence en fait entre l'illimité et ce que j'avais avant, c'est qu'avant je payais. Donc j'avais je crois $20 de frais fixes et après tu payais $10 par giga et donc voilà, donc si tu consommes 5 gigas ça te coûte $50, si tu consommes 6 gigas ça te coûte $60 et si tu consommes 7 gigas et ben ça te coûte $60 aussi, puisqu'en fait l'avantage de Fi c'était qu'il se limitait à 6 gigas et au-delà de 6 gigas en fait en gros c'était gratuit, donc c'est payant jusqu'à 6 gigas et après c'est gratuit. Vas-y.
Du coup, ils ont augmenté $10, si je comprends bien.
Et ils ont augmenté $10, sauf que,
tu consommes plus de 6 gigas.
Ouais, sauf que, enfin, en fait, non, ils ont pas augmenté $10, c'est, quand tu consommes 6 gigas, ça te coûtait, 6 plus, ça te coûtait 6 plus 20, en fait. Comment
Ok,
tu...
d'accord.
Ouais, donc voilà, donc en fait ils réduisent de 10 dollars pour les gens qui consomment plus de 6 gigas, ce qui était mon cas. Mais là du coup avec 22 gigas, eh ben ça veut dire que quand je suis dans le bus par exemple, je peux regarder YouTube et je me pose pas trop la question. Utiliser Duo par exemple, c'est pareil, je me poserai pas trop la question de me dire ah ça va consommer de la data, je vais pas utiliser la visio là où je suis. De la même façon, on parle souvent de TikTok ici, donc tu peux utiliser TikTok ou YouTube ou voilà. En gros, tu peux consommer de la vidéo sans trop te poser de questions. Donc, je suis assez curieux de voir dans quelle mesure ça va changer un petit peu mes usages, mais voilà, c'est la petite nouveauté pour moi. Donc, j'ai activé ça cette semaine, donc je commence juste à l'utiliser. On va voir dans les semaines et mois à venir dans quelle mesure ça change. Mes usages, mais c'est vrai que bon, pour vous qui êtes en France et qui avez un forfait data illimité, ça doit probablement vous faire un petit peu rigoler, parce que c'est des choses que vous avez déjà depuis un petit moment. Un truc que j'oubliais aussi, donc comme c'est Google, on a Google One inclus. Donc voilà, c'est le plus petit package. On a vérifié tout à l'heure avec Nico, je suis sur le plus petit package, mais donc j'ai 100 gigas de stockage inclus avec Google Drive via Google One. Voilà.
Mais en soi, c'est bien, ça va faire baisser la concurrence. Vous allez enfin pouvoir vous connecter à Internet un petit peu partout, vous, et du coup perdre encore plus de temps de vie à aller sur YouTube,
Voilà.
et compagnie. Donc ça va être bien.
Exactement. Vas-y, on parle d'Apple.
Il était bien, il était en cœur ce E. Du coup, ouais, moi je voulais parler d'une autre ouverture. Tu l'as vu, il n'y a jamais un CKB Show où on ne parle pas d'Apple. Hein, donc c'était inadmissible de pas parler d'Apple. Donc j'ai rajouté deux petites lignes. Je pourrais même en rajouter une troisième, mais vu que tu veux aller faire ton bœuf bourguignon, je vais peut-être pas le faire. Il y a Apple qui a fait une keynote il y a quoi? Il y a une semaine, hein, je crois maintenant.
Ouais, c'est ça.
Peut-être un peu plus. Ouais.
Non, deux,
Ils ont
ouais.
fait une keynote. Ouais, c'est ça. Eh ben, je voulais juste relayer le fait que. On voit qu'Apple aujourd'hui s'ouvre sur le marché parce qu'ils ont utilisé pour la première fois de leur histoire, et oui, mesdames et messieurs, la première fois, je dis bien, YouTube pour diffuser leur keynote. Donc ça, c'était juste énorme. Donc YouTube, c'est Google. Apple, bah, c'est Apple. Et c'est deux concurrents qui sont assez acharnés. Et quand on voit que Apple s'ouvre et va faire un petit tour sur YouTube, est devenu un YouTuber, tu te rends compte? Imagine, ils étaient à la course au like aussi. Ils ont demandé des pouces bleus pendant la keynote. Faut pas regarder ça.
Mais ouais, non, c'est assez notable. Il faut se rappeler d'une époque où en fait t'étais obligé d'utiliser Safari pour voir la keynote. Je me rappelle, c'était littéralement le seul moment de l'année, les deux seuls moments de l'année où j'allumais Safari, c'était pour suivre la keynote d'Apple. Depuis peu, c'est tu peux ça marche aussi sur Chrome, mais là maintenant, tu peux carrément voir ça sur YouTube, donc t'as même pas besoin d'allumer Chrome. Ou du coup, quand t'as Google Fi illimité et que t'es en déplacement, et ben tu peux carrément allumer YouTube, enfin ouvrir YouTube sur ton téléphone et le regarder en déplacement. Donc ouais, une petite révolution. Je pense, pour être très honnête, qu'on va voir Apple se faire ce genre de choses de plus en plus. Ils ont annoncé Apple TV Plus là depuis quelque temps, enfin au cours de cette keynote, et ils l'avaient annoncé un petit peu avant. Pour l'instant, c'est disponible que sur des produits Apple. Moi, je pense que je prends les paris. Je pense que c'est pas forcément voué à rester comme ça, et je serais pas surpris de voir Apple s'ouvrir un petit peu plus aux autres écosystèmes. Mais à voir.
À tel point que j'en ai parlé sur Microbook, Apple s'est déjà ouvert aux autres hein, avec Apple Music. Avant, Apple Music c'était réservé aux produits Apple, point. Depuis quelque temps, ils ont ouvert leur application. On en avait parlé d'ailleurs les deux, l'Apple Music Android sur Android en fait, donc légalement, et t'étais étonné d'ailleurs. Et là, dernièrement, ils sont allés encore plus loin parce que cette fois, depuis le navigateur Chrome, tu peux accéder à Apple Music. Donc pour l'instant, c'est une version bêta. Il manque encore des fonctionnalités. Mais ils y travaillent pour améliorer tout ça et c'est déjà très bien fait. Et le must du must, c'est que c'est la première fois qu'on peut s'inscrire à Apple Music en dehors d'un produit Apple. Donc si t'as pas de compte Apple Music, tu peux souscrire à leur abonnement via cette application, via la page web de Apple Music. Ça, c'est assez notable pour le montrer. Et comme tu le dis, je vais prendre le même pari que toi, comme ça on va gagner les deux. On gagnera moins puisqu'on sera au moins deux à gagner. Mais tous les autres services, Apple News Plus, Apple TV Plus, il y a quoi d'autre? Apple Card. ils ont tout intérêt à l'ouvrir au monde, parce que plus le monde l'utilisera, plus ils gagneront d'argent. Et puis bon, on sait très bien que aujourd'hui c'est pas les iPhones qui vont leur faire gagner beaucoup d'argent. Ils ont vu le vent tourner, même si ça leur en fait pas perdre, mais ils commencent à en vendre un peu moins, enfin un peu moins souvent en tout cas. Donc il faut bien trouver de l'argent quelque part. Et Apple s'est tourné clairement vers les services et un petit peu moins vers le hardware. Donc je pense que ça va être intéressant d'avoir des services comme ça qui vont se battre entre eux. On va avoir des Google Photos d'un côté, les Apple Photos de l'autre, iCloud, je sais pas, tout ça qui va interagir entre eux, ça va être assez intéressant. Je l'ai pas marqué, j'en parle rapidement pour la petite histoire. Je me suis pris pour tester l'iPhone 11 Pro.
Quoi?
Non, mais c'est que pour tester. Je les ai tous pris, hein, Thomas.
Non.
Dans ce cas, il y a un peu plus.
Mais blague à part, là, j'avoue, tu me surprends sans me surprendre, parce que oui, je sais que tu t'achètes tous les téléphones qui sortent, donc ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que ouais, j'avais pas, on en avait pas parlé, donc du coup, surprise, révélation. Ouais,
donc je l'ai depuis, il est sorti le 20, donc hier, je crois, ou avant-hier, hier. Je l'utilise. J'ai pas pris le 11 parce que il me plaît pas. J'ai pas pris le 11 Pro Max parce que bon, il coûte une blinde et il est hyper gros et je n'aime pas les produits gros. En sachant que j'ai pas vocation à le garder longtemps, le 11 Pro. Dans un mois, je le revends. Hein, je vais pas le garder. Hein.
D'accord.
C'est juste pour le tester aujourd'hui.
C'est pas
la
bien.
La photo
hein.
est bluffante.
Non, je plaisante. Donc mais, ouais, la photo est bonne.
Il est bien, mais il est pas bien.
Ça fait bizarre en fait de passer. Ça fait bizarre de passer en fait d'Android à iOS et réciproquement. Donc j'imagine que oui, toi qui as utilisé des téléphones Android au cours des derniers mois, switcher sur iOS, ça doit toujours te faire un petit peu bizarre. Par contre, tu dis ouais, la photo est vraiment aussi bonne qu'ils le disent.
Ouais, non, franchement, la photo est bluffante. Il y a un truc qui est génial. J'aimerais bien que Google l'intègre. C'est dans la prise de photo, en fait, t'as directement l'application de traitement d'image, tu sais, pour changer les couleurs, la colorimétrie, les trucs comme ça. Bon, moi, ça, c'est pas très grave s'ils le mettent ou pas. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a une espèce de molette en dessous, tu sais, pour choisir entre 0 et 100 l'atténuation, par exemple, de la couleur rouge, machin, tout ça. Ça fait une espèce de molette. Et quand tu passes d'un curseur, enfin quand tu bouges le curseur, ton téléphone, il y a une espèce de retour synaptique, c'est ça? Non, comment?
Haptique.
Retour haptique. On a l'impression qu'il y a un retour haptique, il y a une vibration qui se fait à chaque cran, et ça c'est génial.
D'accord.
J'ai retrouvé le même fonctionnement. J'avais un iPod à l'époque, tu sais, le pod où tu tournais et t'avais ce bruit qui dans ton oreille qui retentissait et qui donnait cette impression de très sympa. Bah, je l'ai retrouvé dedans et je trouve ça vraiment génial. Ça apporte quelque chose de plus. Tu sais exactement où tu es. C'est les petits détails qui font la différence, mais ça c'est vraiment très très bien. Après, c'est un iPhone quoi. Hein, c'est pour moi ça a pas changé. J'avais acheté le 10 quand il est sorti. C'est la même chose que le 10. Faut vraiment être débile pour l'acheter si t'as le 10 en fait.
D'accord.
Sauf comme moi, tu vois. Du coup, je suis débile hein, parce qu'il y a le 10 qui dort. Ah non, j'ai vendu le 10 d'ailleurs. Je l'ai acheté pour le tester. Le 11, ben je l'ai acheté pour le tester. Je vais le revendre. Je vais pas le garder clairement. Je vais revenir sur le 3A ou peut-être le Pixel 4 qui va être annoncé prochainement, mais c'est la taille qui me convient. Donc je veux pas aller plus haut, je veux pas plus gros. C'est un très très beau produit. Il y a une chose que j'aime bien aussi sur l'iPhone là, c'est son poids. Tu sais, ça fait pas plastique. T'as l'impression vraiment d'avoir un produit de qualité. Bon, alors c'est tout pour l'instant. J'ai rien trouvé de bien. Ah si, il y a une chose qui est bien. Ils ont enfin intégré l'USB-C sur leur chargeur. Enfin, pas
juste
du côté
sur
le
chargeur.
Hein,
ah ouais, c'est ça. D'accord. Chargeur. Ok.
Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pu le brancher sur mon Chromebook directement en USB-C pour récupérer les photos que j'ai faites.
D'accord, ok. Et ça marche. En gros, il est détecté comme stockage média classique. Comme média
de stockage
classique.
J'en ai fait un article qui paraîtra courant de semaine prochaine, je pense, ou un peu plus tard, ça dépend de l'actu.
D'accord.
Donc voilà, petite surprise. Mais c'est un bel appareil photo. Mais ça fait cher pour un bel appareil photo comme ça.
Ouais, j'imagine. Eh ben justement, transition parfaite, on va continuer à parler de hardware. T'as testé aussi un nouveau clavier. Tu nous en parles?
Ouais, alors j'en avais parlé il y a longtemps, un clavier Bridge, c'est le nom de l'entreprise, hein, Bridge.
Bridge avec un clavier... Y.
Comment?
Bridge avec un Y.
Ouais, pas Bridge comme... C'est quoi le Bridge? C'est un jeu, non? C'est un jeu de cartes, le Bridge?
Ouais, puis ça veut dire pont aussi en anglais, du coup. Mais ouais, là c'est Bridge, Bridge avec un Y, ouais.
Ouais. Et ça veut dire trop de choses, Bridge, en fait. C'est un truc aussi dans les dents, là, on met un Bridge. Non, c'est pas ça?
Ouais, si, aussi.
Du coup, j'ai testé ce clavier, j'ai fait un article, je vous ai mis le lien. J'ai trouvé vraiment génial. C'est un petit clavier Bluetooth, donc alors pour l'instant, il est en QWERTY, donc vous jetez pas dessus tout de suite. Par contre, il est hyper quali. Toute la façade d'avant est en aluminium, donc ça donne vraiment une impression de qualité et de solidité. Les touches sont hyper bonnes, avec une frappe très très rapide. Les touches sont assez espacées pour pas avoir à taper les unes sur les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers claviers Bluetooth qui intègre la totalité des fonctions de Chrome OS. Tu retrouves la fonction recherchée, tu sais, celle que tu recherchais, Thomas, tout à l'heure. Et ben, eux, ils l'ont mis tout de suite là. Tu retrouves l'assistant, tu as le bouton assistant vocal, assistant personnel directement, donc ça c'est vraiment sympa. En haut à droite, où tu as la touche, la plupart du temps sur un Chromebook, c'est la touche verrouillée. Bah, c'est toujours la touche verrouillée, mais si tu fais un appui simple, ça ouvre le menu d'état de Chrome OS, donc la barre en bas à droite. Et puis, tu as toutes les autres touches pour faire le reload, le plein écran, le multi-fenêtre. Tu as toutes ces touches-là, tout est intégré dedans, dans un clavier qui tient en batterie. Ça se recharge, donc c'est une batterie qui est interne. Donc, je ne sais pas si au niveau changement, c'est facile, mais bon, j'ai pas regardé pour l'instant. Mais elle se recharge donc aussi en USB-C et la recharge dure 6 mois en utilisation. Donc ouais. Le clavier, tu le charges une fois tous les 6 mois, donc ça veut dire 2 fois par an quoi. Et c'est juste bluffant. Et ça fonctionne en Bluetooth et il est hyper réactif. Tu l'éteins, tu l'allumes en une seconde, c'est un petit raccourci clavier et le Chromebook le détecte instantanément. J'utilise beaucoup de claviers Bluetooth, j'en ai testé pas mal et celui-ci, ce qui est vraiment bluffant, c'est en fait, t'as l'impression de t'as même pas le temps d'allumer ton Chromebook, d'ouvrir l'écran. Si t'avais, avant d'ouvrir l'écran, appuyé sur le raccourci clavier pour le synchroniser, quand t'as ouvert, il est déjà fonctionnel. Donc c'est vraiment un très très beau clavier. Il est peut-être un peu cher pour l'instant, mais voir la quantité qu'ils vont en fabriquer et s'ils fabriquent bien en AZERTY, a priori, l'année prochaine, il devrait y en avoir. Et ils vont aussi également ajouter un trackpad externe en Bluetooth qui fonctionnera de la même façon. Pour l'instant, il n'est pas commercialisé en Europe, donc j'ai pas pu m'en procurer un. En sachant que je fais pas de la pub, mais c'est eux qui me l'ont envoyé gratuitement, donc je le dis, c'est vraiment un beau produit quand même. Même s'ils me l'ont envoyé gratuitement, c'est pas parce que je l'ai pas payé qu'il est pas bien.
Ouais.
Enfin voilà quoi. Très okay. Très bon produit pour moi, en tout cas.
Ouais, bah écoute, c'est bon à savoir. Voilà. Comment tu dis ?
Toi, tu vas me parler de quoi, de Pixel
Watch? La Pixel Watch. Donc ouais, alors ça c'est juste en passant en fait, parce qu'il y a pas forcément énormément de choses à dire. Je pense qu'il y avait des rumeurs qu'on a relayées d'ailleurs dans ce podcast qui parlaient d'une Pixel Watch, donc Pixel comme la gamme de téléphone de Google et Watch comme montre. Donc Google en fait pendant tout un moment a travaillé sur un projet de montre Pixel, donc qui faisait tourner Android Wear, enfin oui c'est ça, Wear OS en fait. Et du coup, qui était censé être un petit peu ce qu'ils font pour les Pixels et ce qu'ils faisaient pour les Nexus avant les Pixels, qui était une sorte de design de référence ou de produit de référence en fait pour inspirer la compétition à faire des beaux produits. Donc pour les téléphones, ça a plutôt bien marché. Maintenant pour les montres connectées, on va dire que c'est un petit peu plus problématique. Et donc du coup, Google travaillait sur cette Pixel Watch et en fait, le projet n'a jamais abouti, la Watch n'a jamais été lancée. Alors, faut savoir que ça ne veut pas forcément dire que ça va disparaître et que ça n'arrivera pas dans le futur. Google a racheté une partie des équipes techniques en fait de Fossil, qui est une marque de montres, qui travaillait sur les questions de Pixel Watch, de Wear OS. Et donc du coup une partie des gens qui fabriquent les montres connectées de Fossil travaillent maintenant chez Google, donc on sent qu'il y a quand même toujours un intérêt assez important que Google peut avoir pour la fabrication vraiment du hardware, du coup d'une vraie montre. Mais malgré tout, voilà, c'est on va dire que c'est un projet qui a été démarré, qui a dû avancer dans une certaine mesure et finalement qui a été annulé. À voir ce que ça donne à l'avenir. Je pense que Wear OS aujourd'hui est un tout petit peu en perte de vitesse. On voit que ce soit Huawei qui a annoncé une nouvelle plateforme de montres connectées, qui fabriquait d'ailleurs des montres sur Wear OS et qui continue à le faire, mais qui a aussi lancé son propre système. Je sais pas si t'as vu ça, Nico. Il lance.
Moi, il lance. Ça, ils n'ont pas le choix.
C'est ça, ils ont ils ont pas le choix. C'est vrai. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant de voir que ils lâchent pas le sujet pour autant et donc ils lancent leur propre montre. Et puis de l'autre côté, on voit Samsung qui du coup a complètement abandonné Wear OS et qui a sa propre son propre système aussi avec Tizen pour les montres connectées. Voilà, ça plus toutes les petites montres entre guillemets de un petit peu de seconde zone qui bah sont finalement pas si mauvaises que ça, hein. Je pense à une marque dont j'ai oublié le nom. Mais on voit de plus en plus de montres connectées arriver en Europe qui ne tournent pas sur Wear OS et qui sont malgré tout des alternatives assez viables que tu peux quand même connecter à ton téléphone, qui peuvent quand même t'afficher les notifications, etc., etc. Donc voilà, donc Wear OS est pas complètement mort, même si on sent que Google se cherche un petit peu. Je sais pas, t'en penses quoi, Nico?
Moi, je pense qu'il y avait du potentiel. Moi, j'avais acheté les Motorola 360, les deux versions. Je trouvais c'était les seules montres qui ressemblaient à une montre à l'époque. Aujourd'hui, je suis revenu aux montres classiques. Alors moi, je suis très montre, hein. J'habite à côté de la Suisse.
C'est la blague que j'allais faire. On sent l'influence de la Suisse.
Pour moi, une montre, c'est pas quelque chose qu'on recharge tous les soirs. Je serais plus du côté WeThink, c'est ça, hein, les montres de fitness qui elles durent très longtemps, qui ressemblent à des montres avec des vraies aiguilles, tout ça. Je déteste les montres où on voit pas l'heure. Typiquement, là, je salue Apple encore une fois sur leur montre, la dernière watch qu'ils ont faite, où enfin on voit l'heure sur la montre. C'est un truc énorme. Il fallait secouer son poignet pour que l'heure s'affiche. T'avais bien l'air con à faire un geste bien spécifique. Moi, je suis pour avoir une montre à aiguilles. J'aime bien les aiguilles. Je suis très Breitling. Donc du coup, forcément, les montres connectées, j'ai essayé. J'ai été vite refroidi par la batterie.
Ouais.
Par contre, s'il y avait une montre que j'aimais bien physiquement, c'était bien les fossiles. Je les trouvais plutôt sympas, à peu près réussi par rapport aux autres. Mais bon, après, à voir ce que ça va donner. Je pense pas que Google ait racheté l'équipe de fossiles pour rien.
Non, absolument.
Avec une Pixel Watch, effectivement.
Absolument. Et pour mémoire, ils avaient fait la même chose, hein, juste pour parler un petit peu de cette stratégie-là, ils avaient fait la même chose en rachetant une partie des équipes de HTC qui travaillaient sur les Nexus à l'époque. Et donc ça nous a donné les Pixel aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a clairement le même raisonnement derrière. Mais bon, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de boulot pour rendre Wear OS un petit peu de son attractivité en fait qu'il avait au départ. C'est clair que c'est plus la seule alternative à l'Apple Watch, on va dire.
Est-ce qu'il mettrait Wear OS dedans ou Fuchsia?
C'est une bonne question. Ouais, c'est vrai, Fuchsia peut-être.
Je pense.
Ouais, après là pour le coup ce serait quand même une sacrée révolution, mais c'est vrai que le problème de Wear OS c'est que c'est Android en fait adapté à la montre. Donc ça offre tous les avantages d'Android puisqu'il y a la compatibilité en fait. Les gens qui savent développer des applications sur Android d'un coup savent aussi développer des applications sur Wear OS. Le problème c'est que c'est un système qui est extrêmement gourmand en batterie et qui est pas du tout optimisé pour tourner sur une montre. Et on sent qu'ils ont un peu du mal, quoi. Et c'est vrai que les alternatives qui arrivent, donc on parlait de Lite OS par exemple de Huawei, c'est clairement des OS qui sont conçus pour tourner sur des appareils qui ont une empreinte en termes de puissance qui est plus petite qu'un téléphone mobile. Même si entre guillemets les configurations matérielles qui sont utilisées pour faire des montres sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on avait sur des téléphones d'il y a 10 ans. Malgré tout, ça reste quand même pas aussi puissant qu'un téléphone mobile.
Moi, je serais pas étonné de voir, comme je te disais, Fuchsia OS arriver là-dedans, parce que ils sont repartis de zéro avec ce système d'exploitation-là, comme ils l'ont fait un petit peu avec Chrome OS. Hein, et Chrome OS aujourd'hui, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Ça prend de plus en plus de parts de marché. Google y croit. On en a pas parlé, mais le mois de septembre a été en France un tournant pour Chrome OS et les Chromebooks. Google a communiqué dessus. Ils D'accord. ont fait des affiches dans les gares, dans les grands magasins, dans à la télé, dans les prime, plein de prime time coupés des Chromebooks avec leurs partenaires qui sont Google, Fnac, Boulanger, Apple. Non, putain, je vais pas y arriver ce soir, excusez-moi. Fnac, Darty, Boulanger, ça va être compliqué. C'est Cdiscount et compagnie. Ils ont fait des publicités qui doivent coûter bien cher puisqu'ils les ont fait le vendredi soir dans les émissions bien spécifiques à heure de grande écoute. Ça leur coûtait une blinde. Et du coup, on a vu cet engouement. Et moi, dans ma petite ville où j'habite, je suis allé à la Fnac parce que maintenant il y en a une. Et ouais, tout évolue. Je suis allé à la Fnac. Et ben, ils n'avaient pas de Chromebook.
Ah,
Alors du coup, je suis allé
dommage.
chez Boulanger et eux, ils avaient un super stand de Chromebook avec un animateur dédié à Chromebook.
D'accord.
Donc c'était assez exceptionnel. J'ai discuté avec lui. Il était très sympa.
C'est ce que j'allais dire, c'est maintenant ton nouvel ami.
Du coup, j'ai appris plein de choses.
Ton nouveau meilleur ami.
Tous les autres, et je vais le voir tous les jours, lui. Et voilà, donc et on voit que Chrome OS, donc du coup, va commencer à faire partie du paysage. Alors il y a toujours ces détracteurs, hein, il y a toujours ceux qui n'ont pas compris. D'ailleurs, un petit clin d'œil à BFM TV qu'on a parlé il y a 2 semaines et qui eux ont oublié de tourner la page du calendrier, ils sont restés bloqués en 2012. Je leur ai fait un petit article pour leur expliquer que ce qu'ils pensaient c'était bien, mais c'était il y a loin. Et mais c'est pas grave, hein, tout le monde peut se tromper. Et s'ils veulent jamais, enfin, si jamais ils ont besoin d'un coup de main pour qu'on les aide à comprendre ce qu'est Chromebook, Chrome OS, tout ça, bah, ils m'appellent, hein, mon mail, il est disponible partout. Et, mais ouais, toi, Chrome OS d'un côté, ça marche. C'est un truc un peu neuf, même si c'est parti sur quelque chose de déjà existant. Android, c'est neuf, ça marche. Pourquoi pas Fuchsia pour spécifiquement ce type de produits-là, qui sont les watch, les montres. Donc moi, je vois bien trois systèmes d'exploitation qui cohabitent ensemble comme ils font aujourd'hui avec Chrome OS et Android, en fait.
Ouais, ce n'est pas impossible. Écoute, l'avenir nous le dira.
Et ben
Pixel
bientôt
Watch.
d'ailleurs, l'avenir, c'est peut-être bientôt. Tu
Ouais,
sais que c'est le 15 octobre, l'avenir.
c'est ce que j'allais dire. Alors, j'avais fait une petite capsule hein, pour parler de Android 10. Et en gros, j'ai posté comment ça s'appelle? Un survey d'ailleurs, comment on appelle ça, un questionnaire,
Sondage.
un sondage, merci, sur Twitter pour demander aux gens si vous étiez intéressés pour avoir une capsule sur le Pixel. Je pense que je vais peut-être essayer d'enregistrer ça dans les jours qui viennent pour parler un petit peu de ça. Et puis bon, il faudra aussi qu'on fasse un épisode spécial sur le lancement a priori du nouveau Pixel. Je dis a priori, mais il n'y a plus aucun doute, hein. Il y a un Pixel 4 qui arrive.
Non.
Il a leaké comme jamais aucun téléphone n'a leaké avant, fuité, pour le dire en français. Et donc on sait à peu près les couleurs, la forme, les fonctionnalités. Donc on parlera tout ça en détail. Peut-être qu'on fera un épisode spécial, peut-être qu'on pourra l'enregistrer à deux d'ailleurs, Nico, ça t'intéresse. Quoique maintenant si tu passes sur iOS, peut-être que t'as plus peut-être plus d'intérêt pour les Pixels, je sais pas.
Et non, j'ai acheté l'iPhone jusqu'au 15 octobre, en fait, je m'en débarrasse.
Ok,
Enfin, jusqu'à
mais
ce que le Pixel 4 arrive, ou le
d'accord.
4A, parce que la taille m'intéresse.
D'accord. Mais donc du coup, c'est le nouveau Pixel va arriver. Donc probablement aussi, il y a de très grandes chances pour que Google annonce aussi quelque chose du côté de Chrome OS. Ça a un peu moins leaké, mais on pense qu'il y aura probablement un nouveau remplaçant du Pixel Book. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis voilà, donc forcément le 15 octobre, made by Google. J'avais d'ailleurs dans la capsule annoncé que ce serait probablement courant septembre. Bon bah je me suis trompé, hein. Google a décalé tout ça. Ils ont voulu être sûrs que le truc fuiterait au maximum avant de l'annoncer. Et puis il semblerait aussi qu'il y aurait, enfin c'est un événement hardware, hein, donc tiens, alors que mon Chromebook vient de rebooter. Bon, écoute, génial. Donc ouais, c'est vraiment un événement hardware, donc probablement pas de watch, mais clairement un nouveau Pixel, probablement un nouveau Pixel Book ou remplaçant du Pixel Book. Et puis il parle aussi de, a priori, un truc qui serait à mi-chemin entre le Google Wi-Fi, enfin les petits routeurs Wi-Fi faits par Google. Et les Google comment ça s'appelle? Google Nest Assistant. Donc faut voilà, faut probablement quelque chose qui serait un peu à mi-chemin entre le Google Home Hub, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle maintenant le Google Nest Hub, et Google Wi-Fi. Donc voilà. Ça t'inspire,
À voir ce
Nico?
que ça va donner, hein. Ouais,
Ouais.
moi je suis impatient. Enfin, je suis impatient. Tu sais, l'heure c'est toujours pareil, vers 16-17 heures, un truc comme ça, j'imagine.
Ouais, alors ça, je t'avoue, je sais pas trop. Mais oui, ce sera dans la journée probablement. Donc c'est en général 10h, 10 ou 11h ici, sachant que ce sera à New York cette fois-ci, pas en Californie. Et donc du coup, tu fais si c'est à 10h plus 8, oui, c'est ça, 18h. Tu dis 16h? Non, je pense que ce sera
Ouais,
plutôt 18h,
ouais.
ouais, début de soirée en France.
Ça serait intéressant. Tu y vas cette année ou pas?
Non, non, non. Non, non, j'ai jamais eu l'occasion d'ailleurs d'être invité à ces événements made by Google. Je suis allé à ceux de Samsung, mais non, en général, c'est plutôt pour les journalistes. Donc
Ouais. Bah, t'es pas
voilà.
journaliste en faisant le
Je
PKB Show?
suis pas journaliste. Ah, ça serait peut-être un filon à creuser d'ailleurs. Mais
Il y
donc
a un mail.
non.
On fera ça en off, mais on enverra un mail. On va t'inviter.
Ça marche. On en reparle, mais ouais, ça pourrait être une option. Mais donc ouais, tout ça pour dire que donc ouais, made by Google le 15 octobre. Donc voilà, probablement des présentations, des démos, et puis voilà, à voir un petit peu comment les choses vont se passer. On vous en
Du coup, dernière
reparlera.
petite chose et après on va vous laisser partir, hein.
Allez, vas-y.
On va parler d'une dernière chose. Et donc, ben moi, je suis assez fan, vous le savez, de Google Stadia. Et pourquoi j'en parle dans le hardware? Parce que, bah ouais, pourquoi j'en parle? Ah oui, parce que le pack fondateur, vous savez, la manette de jeu, le Chromecast, qui était proposé aux premiers, aux fans, aux ceux qui voulaient avoir leur nom sur leur avatar, soit est enfin en rupture de stock complète en Europe. Ça y est, c'est fini. Vous ne pouvez plus acheter la manette bleue nuit de Google Stadia. Je sais, ça va faire des déçus, des malheureux, des personnes très tristes, des gens qui pleurent dans des coins. Mais c'est fini. Vous passez à la première édition, c'est-à-dire une manette blanche. Voilà, classique. Toujours à 129 balles avec le Chromecast 4K inclus. Et puis petite chose intéressante, il semblerait, encore une fois, c'est des fuites. Alors qui lance les fuites chez Google? J'ai l'impression que c'est Google qui lance les fuites lui-même. La prochaine version d'Android TV visiblement serait compatible avec Google Stadia quasiment à son lancement, c'est-à-dire qu'on ne serait pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Juste si vous avez une Android TV homologuée par Google, évidemment, vous pourrez lancer directement Google Stadia dessus sans autre appareil à connecter ou autre chose comme ça. Donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous parler un petit peu des jeux, mais bon, là, ça commence à faire un petit peu tard pour nous. Et puis vous, ça fait déjà une heure et quart que vous nous écoutez, donc je pense que vous en avez marre de nos petites voix.
Ce sera pour la prochaine fois,
Tu voulais
Nico.
dire?
J'imagine que tu nous feras un test approfondi de Google Stadia dès que tu recevras la manette.
Clairement, clairement, on a embauché, il y a un nouveau rédacteur qui est venu sur My Chromebook, qui lui ne traitera que de ça en plus. Qui
Super.
s'appelle ouais, Gaëtan et qui est un passionné de jeux vidéo et sa passion c'est une passion débordante puisqu'il est il en parle un peu partout, il fait des séminaires, il fait des choses comme ça, c'est assez intéressant, c'est quelqu'un de très passionné par le jeu vidéo, il en parle très bien. Donc c'est peut-être pas moi directement qui le ferai, c'est peut-être lui, mais dans tous les cas, j'ai tout fait pour enfin j'ai pris un pack pour lui, un pack pour moi et on va pouvoir jouer ensemble au pire. Donc du coup
Parfait.
Donc du coup, on pourra faire un compte rendu à deux. Enfin voilà quoi. C'est tout ce que j'ai sur Stadia. Enfin, il y a plein d'autres choses à dire, mais on va pas non plus tout dire aujourd'hui. On fera peut-être un jour un épisode spécial quand il sera sorti, c'est-à-dire courant novembre. Voilà, je crois
Absolument.
qu'on a tout dit.
Ouais. Bah écoute, Nico, merci hein, d'avoir pris le temps d'enregistrer ça avec moi. On se retrouve très très bientôt, hein, probablement avec les annonces Google là qui vont arriver dans les semaines à venir. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter encore tous les deux. Si on veut en savoir plus sur nous, où est-ce qu'on nous retrouve?
Alors moi, on me retrouve sur Telegram parce que j'échange avec les gens sur Telegram, moi, et puis sur Twitter à Nico Chromebook ou sur le site mychromebook.fr. Juste une petite chose avant de nous quitter, Thomas, je voulais parler. Vous savez peut-être qu'on a mis en place un financement participatif pour le CKB Show, pour Mychromebook et compagnie, pour tout réunir ça, et qui est sur Tipeee. Donc je voulais juste remercier parce qu'on a des nouveaux tipeurs. On en parle tellement peu souvent qu'on oublie de remercier les tipeurs. Donc je voulais juste remercier un ou deux tipeurs qui étaient venus il y a pas très longtemps. Donc je remercie Rémi. Rémi. Alors, je dis pas leur nom de famille. Je remercie Rémi pour sa participation. Merci à toi. Je remercie Cédric. Je remercie Charlie et je remercie, alors le dernier, je sais plus. Ah, un autre Cédric, un deuxième Cédric, hein, deux Cédric en coup et tout ça dans en une semaine. Hein. Donc, merci à eux d'être venus, de participer à My Chromebook, au CKB Show et de nous aider à faire perdurer tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les tipeurs. Allez jeter un œil, on a rajouté des paliers, il y a des choses qui vont arriver prochainement pour vous donner encore plus de choses spécialement aux tipeurs. Mais toi Thomas, on te retrouve où?
Eh ben moi, on peut me retrouver sur @léthargiquepanda sur Twitter et puis aussi sur le compte du CKB Show sur Twitter que j'essayais d'animer de temps en temps qui est CKB -du-bas show SHOW.
C'est parfait. On te retrouve ailleurs, je crois, dans les oreilles. On peut te retrouver à un autre endroit, il me semble.
Tout à fait, oui, en effet. Ça m'arrive de temps en temps d'animer un autre podcast qui s'appelle Hashtags. Et voilà, et on parle avec l'ami Stéphane des réseaux sociaux. Donc, si ça vous intéresse, on a parlé de beaucoup de Facebook au cours du dernier épisode. Et on a aussi parlé en particulier de Portal, qui est le nouveau hardware de Facebook. Écoute, comme on parle de temps en temps de Alexa dans le CKB Show, je me dis que c'est pas impossible qu'on en parle aussi un petit peu ici, à un moment donné, si j'arrive à mettre la main dessus.
Voilà. Je vous invite à aller l'écouter, c'est assez amusant, c'est assez intéressant. On apprend des choses perturbantes des fois, les biais des hommes et des femmes de ce monde. Donc, je vous invite à aller vous abonner avec une petite cloche, je crois. Je sais pas comment on s'abonne à un podcast. Je crois qu'on clique dessus, s'abonner. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Et c'est quoi? C'est une heure à peu près que vous
dites? Ouais, on essaie de faire au-dessus d'une heure à chaque fois, ouais. Donc, entre 50 minutes et une heure. Merci, comme c'est vous. Gentil.
Je te dis au revoir Thomas, je te dis bon bœuf bourguignon et puis je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, enfin bonne quelque chose à partir du moment où vous écoutez là.
Allez, à la prochaine.
À bientôt.
Ciao.